On a coutume de dire « qui vole un œuf, vole un bof ». Mais ce n'est quand même pas pareil. Notre sens de la justice, tout comme le code pénal, fait une distinction entre les infractions à la loi, car on ne peut quand même pas mettre dans le même sac le gamin qui va piquer un œuf dans un poulailler et le paysan qui, au milieu de la nuit, va chercher le bovin dans le champ appartenant à son voisin pour le vendre sur un marché éloigné. Ou encore, un violeur assassin d'une petite fille et un voleur de poules. Les Saintes Écritures aussi font une distinction entre les fautes en déclarant certaines plus graves que d'autres. Je continue de lire dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Si deux ou trois témoins déposent contre lui, à votre avis, si quelqu'un foule aux pieds le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang par lequel l'Alliance a été consacrée, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Sous l'Ancienne Alliance, un Israélite qui dit du mal de la loi de Moïse devant témoins est sommairement exécuté. L'auteur s'appuie sur cette règle pour dire que si le mépris de la loi de Moïse, qui est une alliance inférieure, entraîne un tel châtiment, qu'en sera-t-il de quelqu'un qui, par choix délibéré et persistant, se détourne complètement de ce qu'il sait être vrai de la nouvelle alliance, qui est parfaite et qui repose sur le sacrifice expiatoire du Fils de Dieu? La seule réponse possible et solennelle est qu'en premier lieu, il n'y a point de seconde voie pour l'expiation du péché, et ensuite, la condamnation prononcée dans le deuxième cas sera considérablement plus sévère que dans le premier cas, qui pourtant a déjà conduit à la peine capitale. Le pire crime que quelqu'un puisse commettre sous le régime de l'Ancienne Alliance n'est pas comparable à l'offense commise par celui qui comprend la signification de la croix et crache dessus en rejetant délibérément la grâce de Dieu. Luc rapporte que Jésus a enseigné que le jugement, tout comme la culpabilité, est proportionnel au péché. Et Jean rapporte que le Seigneur a dit au gouverneur Pilate, « Celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » La trahison de Judas est beaucoup plus grave que la décision politique de Pilate, le poltron, qu'acquiescer à la requête des religieux juifs et de faire exécuter le Christ. Judas est un apostat parce qu'il sait que Jésus est le Fils de Dieu, alors que le gouverneur ne le connaît pas. Pour cette raison, dans la Divine Comédie, le poète italien Dante place Judas tout au fond, dans l'endroit le plus reculé de l'enfer, et il pense le plus brûlant, en compagnie de Brutus, le principal assassin de Jules César, parce que tous deux sont des traîtres qui se sont d'ailleurs suicidés. Aujourd'hui, Dieu est moins tolérant qu'il ne l'était sous le régime de l'Ancienne Alliance, parce que Jésus, la lumière du monde, est venu, et les hommes sont donc sans excuses. Dans le livre des Actes, on lit que l'apôtre Paul a dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Je continue le texte. Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Ce passage est tiré du cantique de Moïse dans le livre du Deutéronome. Il s'adresse aux ennemis de Dieu, qu'ils fassent partie de son peuple ou qu'ils soient de l'extérieur. Dieu est le maître de cet univers et à ce titre, il exerce des jugements contre ceux qui le haïssent et discipline ceux qui lui appartiennent. Chacun d'entre nous devra lui rendre des comptes et comme je l'ai déjà dit, nul ne peut échapper à ce rendez-vous fatidique. dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu ? Si le croyant ou les croyants vont avoir des sueurs froides, qu'en sera-t-il des apostats ? Esdras fut l'un des trois principaux acteurs, avec Zorobabel et Néhémie, du retour des Israélites de la captivité babylonienne. On lit qu'il arriva à Jérusalem parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. S'il est vrai que Dieu veut poser sa bonne main sur chacun d'entre nous, quelquefois, elle se fait plutôt pesante parce que je refuse de reconnaître mes mauvaises actions. Ce fut aussi l'exemple ou l'expérience de David, et il la partage avec nous quand il écrit dans le psaume 32. Tant que je me taisais, ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'aigle qui se dessèche avec l'ardeur de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel le péché que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Je continue le texte. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'auteur met sévèrement en garde les Hébreux qui songent à retourner aux pratiques du sacerdoce lévitique, qu'ils soient de véritables croyants ou pas. Parce qu'ailleurs, suite à la lecture de cette lettre, leur décision déterminera ceux qui appartiennent à Dieu et les autres. Dans le psaume 75, on lit « L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mêlé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. » Cette coupe est réservée à toute personne qui foule aux pieds le Fils de Dieu, qui considère comme sans valeur le sang par lequel l'Alliance a été consacrée et qui outrage le Saint-Esprit. Ceux qui méprisent l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix subiront le terrible jugement de Dieu. Je continue le texte. Rappelez-vous au contraire, les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt, vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais traitements. Tantôt, vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Cette exhortation s'adresse à des Hébreux qui sont pour la plupart des croyants authentiques et qui ont fait partie de la charrette quand l'empereur Claudius a expulsé tous les Juifs de Rome en 50. Dans la foulée, ils ont évidemment tout perdu. Comme en plus, ils sont persécutés par leurs compatriotes, ils commencent à trouver que la chaleur et la pression montent un peu trop dans la concrète minute chrétienne. De ce fait, ils se demandent s'ils n'ont pas fait une erreur de jugement concernant le Christ et s'ils ne devraient pas retourner au temple et se joindre à nouveau à ceux qui suivent toujours le sacerdoce lévitique. Pour les encourager, l'auteur leur rappelle le chemin qu'ils ont déjà parcouru, leur courage qu'ils ont manifesté dans les tribulations passées et les récompenses qu'ils recevront quand ils auront surmonté toutes leurs épreuves. Le mot pour « rappelez-vous » signifie repenser attentivement, repasser en soi-même les événements du passé. L'auteur dit quelque chose du genre, après avoir déjà tant souffert pour le nom de Jésus, ce serait une tragédie si vous abandonniez maintenant. Alors, allez de l'avant et ne vous comportez pas comme le sol rocailleux de la parabole du semeur. Les grains ont rapidement levé, mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils desséchèrent. Ces Hébreux prouveront qu'ils sont de véritables croyants en se pliant aux exhortations de l'auteur. Les Hébreux du premier siècle sont écartelés entre leur culture ancestrale et la fascination que Jésus exerce sur eux. Beaucoup sont convaincus qu'il est bien le Messie, mais éprouvent de grandes difficultés à lâcher cette fausse espérance que les rites et symboles du système sacerdotal lévitique exercent sur eux. Pour cette raison, l'auteur les pousse avec douceur, mais fermeté à tenir bon. Je continue le texte. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. L'auteur enfonce le clou. Il poursuit son discours en exhortant ses Hébreux croyants à obéir pleinement dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire à ne pas songer un instant à retourner dans le judaïsme, mais bien plutôt à s'engager franchement et publiquement pour Jésus-Christ. Ce faisant, ils recevront les récompenses éternelles que Dieu a promises à ceux qui lui sont fidèles. Je continue. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. L'auteur s'inspire, mais sans les citer mot à mot, de deux passages prophétiques de l'Ancien Testament, l'un d'Ésaïe et l'autre d'Habacuc. On y retrouve l'espérance chrétienne du retour du Christ et la déclaration tonitruante « Le juste vivra par la foi » que l'apôtre Paul cite également dans deux épîtres. Mais dans chacune des trois citations, l'accent est placé sur un mot différent. Aux Romains, Paul souligne « le juste », aux Galates, « la foi ». Et ici, c'est le verbe « vivre » qui est souligné. Les Hébreux hésitent à s'engager pour Jésus à cause des persécutions qu'ils doivent endurer et qui s'intensifient jusqu'à menacer leur vie. Mais, dit l'auteur, si vous voulez vraiment être juste, faites le pas final de la foi qui vous manque. Je finis de lire le chapitre 10. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi afin de préserver leur âme. Ce « nous » englobe l'auteur et les Hébreux qui sont des croyants authentiques et qui donc ont abandonné le temple, ses rites et ses sacrifices interminables. Pour les Hébreux, l'âme désigne la personne ou sa vie. Le mot pour « se perdre » correspond à une perdition qui peut être temporelle ou éternelle. Un thème de cet épître qui revient souvent est la nécessité d'aller de l'avant dans la marche avec le Seigneur. D'ailleurs, une caractéristique des êtres vivants est de se développer, de progresser, sinon il meurt. Le croyant est toujours exposé au danger de s'enliser à cause du découragement, des persécutions ou d'autres difficultés de la vie. Mais de savoir qu'il possède un sauveur vivant qui intercède pour lui devrait l'aider à persévérer sur la voie étroite jusqu'à ce qu'il atteigne son port d'attache dans les cieux. Nous arrivons au chapitre 11 qu'on a appelé le Panthéon des saints, les héros de la foi ou encore la liste d'honneur des saints de l'Ancien Testament. Cette portion des Écritures remonte dans le temps pour démontrer que la foi est le seul moyen pour l'homme d'entrer en relation avec Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, les Israélites considèrent leur relation avec l'Éternel en termes de rites et de bonnes œuvres. Mais certains de ceux qui, au premier siècle, ont accepté Jésus comme sauveur, croient qu'il faut aussi respecter certaines règles cérémonielles de la loi de Moïse. Au premier siècle, le judaïsme se résume à un manuel d'exigences légalistes. C'est un système éthique conçu par les chefs religieux juifs pour leur glorification personnelle où le salut se tient à la sueur de son front par sa religiosité. la foi personnelle en l'Éternel a disparu, alors qu'elle a toujours été la base de toute relation avec Dieu. Assez curieusement, après avoir réduit le judaïsme à un règlement à respecter, on a fait de même avec le christianisme. L'un et l'autre ont ainsi été ramenés à un code de bonne conduite. Les règles à suivre ont encore de beaux jours devant eux. Comme je n'ai toujours pas un de ces gadgets modernes GPS pour me guider par satellite quand je roule en voiture, il m'arrive encore assez souvent de me perdre. Mais j'ai une langue pour demander ma route. Alors, on m'explique qu'il faut tourner d'un côté, puis d'un autre, et ainsi de suite. C'est facile à suivre, et quand on me donne des instructions exactes, j'arrive toujours à destination. Les êtres humains aiment bien qu'on leur donne une feuille de route. La plupart des gens sont sécurisés quand ils ont devant les yeux une liste de ce qu'on attend d'eux. Pour cette raison, un grand nombre ont élu d'obéir aux 10 commandements ou aux prescriptions du serment sur la montagne. Au premier abord, il semble plutôt facile de se réfugier sous une liste de règles. L'auteur a déjà prouvé la supériorité absolue de la nouvelle naissance sur l'ancienne. Mais maintenant, il va montrer que non seulement ces deux alliances sont similaires sous le rapport de la foi, mais que toute relation avec Dieu s'établit sur ce même principe, par la foi. Il va donc montrer que depuis toujours, depuis Abel, fils d'Adam et Ève, l'Éternel honore la foi et rejette les accomplissements humains, à commencer par ceux de Caïn. Aucun système religieux ne donne accès à Dieu sans la foi. Dans le chapitre précédent, l'auteur écrit « Le juste vivra par la foi ». Comme je l'ai dit, cette parole du prophète Habacuc est également reprise deux fois par l'apôtre Paul. Tous les personnages cités dans le chapitre 11 sont les témoins vivants de la foi, qui seuls permettent aux promesses de Dieu de se réaliser et qui procurent la vie éternelle. Je commence de lire le chapitre 11. La foi, c'est posséder ce qu'on espère. C'est l'évidence vécue des réalités qu'on ne voit pas. L'auteur définit la foi en utilisant deux propositions parallèles et très similaires, une forme de poésie fréquente dans l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, les Israélites fidèles prennent Dieu au mot et se cramponnent à ses promesses. La foi est une espérance qui est tellement réelle que celui qui croit considère qu'il possède déjà ce qui, en réalité, n'existe pas encore, mais il est persuadé qu'il obtiendra. Le mot grec traduit par « façon de posséder » signifie « réalité », par opposition à une simple apparence. C'est aussi un terme scientifique qui exprime du concret, l'inverse d'une théorie. C'est aussi le mot pour le composé solide qui se forme au cours d'une réaction chimique et qui s'accumule au fond de l'éprouvette. La foi est une certitude, une conviction et donc une fondation solide et sûre et en dur, sur lequel on peut s'appuyer en toute tranquillité en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Considérée ainsi, la vraie foi ne correspond pas au fameux pari de Pascal qu'on étudie au lycée et qui est plutôt d'ordre spéculatif. La foi n'est pas non plus un mystère, une sorte de sixième sens, une intuition, une formule du genre « Sésame, ouvre-toi » qui permet d'entrer dans le monde spirituel. Ceux qui ont la foi n'ont pas été initiés dans un ordre secret et ne pratiquent pas des rites mystiques. La foi n'est pas de l'ordre du fétiche, de la patte de lapin ou de l'amulette qu'on prend ou qu'on se met autour du cou pour se préserver du malheur. La foi n'est pas une substance qu'on ajoute à un code de bonne conduite comme la vinaigrette à une salade de bonnes œuvres. Sous la Nouvelle Alliance, l'espérance chrétienne est de croire Dieu, et en sa parole envers et contre tout. En fait, le croyant fidèle cherche à plaire à un Dieu dont il ne connaît pas la voie et place sa confiance en Jésus qu'il n'a jamais vu. Mais ce que les rationalistes considèrent comme une folie est pour lui une réalité aussi palpable qu'un titre de propriété qu'on tient entre ses mains. Jean rapporte que Jésus a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». L'attitude naturelle de l'être humain est de croire ce que ses cinq sens lui communiquent, ce qu'il voit, entend, goûte, touche et sent. Et pourtant, ses sens peuvent le tromper. Mais l'homme qui a foi en Dieu voit l'invisible que ses sens ne détectent pas. Plus loin, dans le chapitre, l'auteur parle de Moïse, qui a renoncé au trône d'Égypte par dévotion pour un Messie qu'il ne viendrait que 15 siècles plus tard. Daniel et ses trois amis déportés à Babylone doivent choisir entre obéir à Nebuchadnezzar, qui est là devant leurs yeux, ou l'Éternel, dont ils ont seulement entendu parler. Au péril de leur vie, ils décident résolument d'obéir à Dieu. Contrairement à ce qu'on pense, le philosophe Épicure n'est pas un hédoniste. Il n'enseigne pas la gratification immédiate, mais que l'homme doit poursuivre ce qui, à long terme, lui procurera le plus de satisfaction. Eh bien, la foi est de cet ordre-là, puisque celui qui fait confiance à Jésus reçoit en espérance la vie éternelle qui sera une félicité ultime et permanente dans les siècles des siècles. Plus loin, l'auteur écrit que les fidèles de l'Ancien Testament sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. C'est avec les yeux de la foi qu'ils ont vu la réalisation des promesses que Dieu leur avait faites. La primauté de la foi est descendue jusque dans le langage populaire, puisqu'on entend quelquefois dire que « il n'y a que la foi qui sauve ». Mais combien parmi ceux qui parlent ainsi comprennent la portée de leurs paroles?